Bienvenue dans Soundtrack. Alors, c'est la cinquième émission sur les compositeurs de bandes originales de films. Donc, aujourd'hui, on va parler d'Éric Serra et de sa collaboration avec Luc Besson. Sachant que cette collaboration dure depuis plus de 35 ans maintenant.
How can I keep on smiling at their disguise? When I know nothing good ever comes from lies, my heart is no beginner, but still I can lose my temper. Our strength away, and never shows us the way.
Donc, It's Only Mystery, interprété par Arthur Sims, avec des paroles donc faites par Corinne Marieno et Louis Bertignac, hein, les deux des musiciens du groupe Téléphone. Donc, cette chanson est dans le film qui s'appelle Subway. Et la musique du film, elle a obtenu la victoire de la meilleure musique de film et elle a été nominée au César dans la même catégorie. Alors, l'histoire de Subway, c'est après avoir dérobé un des documents compromettants, un homme se réfugie dans l'univers fascinant et agité du métro parisien. Et une impitoyable chasse à l'homme s'organise, d'étranges liens se tissent entre le cambrioleur, Fred, et la femme de sa victime, Elena. Subway, c'est aussi une plongée dans le monde de la marginalité. Fred parcourt les sous-sols du métro et découvre sa faune nocturne. Au détour des couloirs, il rencontre des musiciens, chacun dans leur coin, et décide de les réunir et de les inciter à former un groupe. Eric Serra, d'ailleurs, joue un petit rôle dans le film, celui d'Enrico, le bassiste, aux côtés de Jean Reno en batteur et du chanteur Arthur Sims, qu'on voit donc dans le film. Alors, on va parler un petit peu d'Eric Serra, là. Donc, lui, il est né en septembre 59 à Saint-Mandé, dans la région parisienne. Son père, il est poète et chansonnier. Il l'élève seul après le décès de sa mère, alors qu'Eric a 7 ans. Il lui enseigne la musique dès 5 ans. D'abord la guitare, puis la batterie, la basse, le synthé et le piano. Eric va s'inspirer fortement de Ritchie Blackmore, Alvin Lee ou Jeff Beck, dans ses... grand fan, et il va former son premier groupe nommé Flep à l'âge de 15 ans. Il va commencer sa carrière professionnelle très tôt, à 16 ans, puisqu'il commence à tourner avec le chanteur français Michel Murti et participe également à des sessions en studio avec Morricone et Didier Lockwood, entre autres. Il va rencontrer Luc Besson en 1979 et ils travaillent ensemble sur quelques projets de courts-métrages. Il va accompagner toute l'œuvre de Luc Besson avec comme point culminant l'immense succès du Grand Bleu. Une telle collaboration ne s'est jamais trouvée dans l'histoire du cinéma français. Que la première musique de l'un soit composée pour le premier film de l'autre et que ce travail commun se poursuive de film en film. Donc dans les années 80, il va travailler en collaboration aussi avec le chanteur Jacques Higelin sur des chansons comme Coup de Lune par exemple, Manque de classe ou Slim Black Boogie.
Jacques, parle-moi encore. Raconte-moi une histoire.
Une histoire? Tu sais que... ce qu'il faut faire pour vivre au milieu des sirènes, tu descends au fond de la mer très loin. Si loin que le bleu n'existe plus. Là où le ciel n'est plus qu'un souvenir. Une fois que tu es là, dans le silence... tu y restes. Et si tu décides que tu veux mourir pour elle, rester avec elle pour l'éternité, alors, elles viennent vers toi et jugent l'amour que tu leur portes. S'il est sincère, s'il est pur, et si tu leur plais, alors elles t'emmèneront pour toujours.
Plongé dans 2 minutes.
Thank you.
Qu'est-ce que ça te fait?
C'est comme si je glissais sans tomber. Le plus dur, c'est une fois en bas.
Pourquoi?
Il faut une bonne raison pour remonter. J'ai des fois du mal à en trouver une.
Vous aurez bien sûr tous reconnu My Lady Blues, donc là, qui est interprété par Eric Serra lui-même, voilà, donc musique du Grand Bleu. La musique a été victoire et César de la meilleure musique de film et grand prix aussi de la SACEM. Alors l'histoire, vous en rappelez sûrement, hein, c'est Jacques Mayol donc et Enzo Molinari qui se connaissent depuis l'enfance. Ils ont grandi ensemble en Grèce et partagent depuis toujours leur passion pour la mer. Mais à la suite de l'accident au cours d'une plongée et du décès de son père, Jacques revient en France. 20 ans ont passé, mais la rivalité entre les deux hommes existe toujours. Le championnat du monde d'apnée No Limit à Taormina en Sicile à la fin des années 80 et l'association est l'occasion pardon, pour les deux hommes de se retrouver et d'explorer un monde que personne ne connaît aussi bien qu'eux. Ce film a été mal reçu en Festival de Cannes, mais il va devenir un phénomène de société. Mais c'est son style qui est proche de l'esthétique publicitaire qui va installer un fossé entre le réalisateur et le monde de la critique. Par contre, la bande originale, elle s'est vendue à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Et en 89, Luc Besson va être nommé chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture. Quand on interroge Éric Serra pour savoir s'il compose la musique avant ou après le tournage du film, il répond « J'ai besoin de l'univers visuel pour finaliser le mien. Je me laisse emporter par les images et j'écris ce que ça m'inspire une fois le film terminé. » On peut supposer qu'avec les images du Grand Bleu, il était fortement inspiré. Quant à Luc Besson, lui, il est réalisateur, producteur, scénariste, dialoguiste, directeur de casting, acteur, écrivain, et également président du conseil d'administration d'EuropaCorp. Il est né en 1959 à Paris. Il va passer son enfance auprès de ses parents, qui sont instructeurs en plongée sous-marine au club Méditerranée, entre la Grèce et l'ex-Yougoslavie. Mais un accident l'empêche de poursuivre la plongée à un haut niveau. Donc on peut comprendre pourquoi il a fait le Grand Bleu. Il commence au cinéma comme assistant réalisateur en France et aussi aux États-Unis, avant de réaliser son premier long-métrage, un film de science-fiction coécrit avec Pierre Jolivet, qui lui vaut d'être distingué au Festival d'Avoriaz et lui permet de signer un contrat avec la Gaumont pour Subway. En tant que producteur avec sa société de production EuropaCorp, il est surtout connu pour des séries de films Taxi, Taken ou Le Transporteur.
C'est fou cette fidélité que vous avez envers ce compositeur, Éric Serra. Vous avez le sentiment que finalement, seul lui peut habiller vos films, les comprendre musicalement ?
Non, pas du tout. D'abord, c'est très compliqué parce que c'est un de mes meilleurs amis. Et on a une relation, au bout d'un moment, un peu de vieux couple. Voilà, donc on n'arrive plus à se surprendre. Donc il y a un moment donné, il faut qu'il y en ait un des deux qui aille acheter un peu de lingerie et que le désir revienne. Donc j'avais besoin... C'est pour ça que, par exemple, Malavita, on n'a pas travaillé ensemble. C'était pas du tout une punition, mais il y avait besoin de se ressourcer chacun pour pouvoir se resurprendre. Et j'avais vraiment envie de lui sur Lucie. Donc j'ai passé un tour, juste pour lui ouvrir l'appétit, pour qu'il ait envie de la voir. Et ça nous a fait en fait beaucoup de bien. Il a travaillé beaucoup avant même le tournage du film, avant même de voir des images. Je lui ai raconté des morceaux et je l'ai vraiment laissé chercher tout seul. Il est parti dans des univers, il a sorti des instruments de nulle part. Et il est revenu avec des sons incroyables. Donc on a eu besoin d'avoir cette petite thérapie de couple.
Donc dans les années 90, Nikita, Atlantis et Léon se verront tous décerner la victoire de la meilleure musique de film. Et Nikita aura même droit à un César aussi, comme meilleur film. Donc là maintenant, on va écouter la cinémascopie.
Du personnage de Mila Jovovich dans Le Cinquième Élément est un studio français fondé en 1992 par Luc Besson et Pierre-Ange Le Pogam, ancien directeur de distributeur chez Gaumont, dont le siège social se situe à Saint-Denis dans la Cité du Cinéma. Le studio a pris le nom d'EuropaCorp en 2000 et a produit de nombreux films à succès au box-office mondial, Taken 1 et 2, Le Transporteur, Arthur et les Minimoys, Hitman, ainsi que la série des taxis, Jeanne d'Arc, I Love You, Philip Morris, La Source des Femmes, Malavita ou encore plus récemment Lucie. Une quinzaine de films produits par Europacorp ont été nominés et 7 ont été récompensés, comme par exemple The Tree of Life, Palme d'Or au Festival de Cannes pour la distribution en 2011, ou encore Taken, qui a remporté 2 BMI Film Music Awards à Londres et à Los Angeles pour la bande originale du compositeur Nathaniel Méchali en 2009. La Cité du Cinéma, pôle cinématographique, porté par Luc Besson et financé à 90% par la Caisse des dépôts, a été inaugurée le 21 septembre 2012. Elle est située sur le site de l'ancienne centrale EDF, près du pôle image de la Plaine Commune, qui compte une cinquantaine de studios de télévision et 14 plateaux de cinéma. La Cité du Cinéma abrite également l'École de la Cité, école qui est gratuite et sans condition de diplôme, formant des réalisateurs et des scénaristes. L'École nationale Louis Lumière, l'École de maquillage Make-up Forever, ainsi que l'École de formation des artistes.
Alors, The Freeside, donc tiré du film Nikita, hein, qui voilà, a eu non seulement la victoire de la meilleure musique de film, mais l'actrice Anne Parillo a aussi remporté le César de la meilleure actrice. Et Chucky Cario, lui, a remporté le MyFest 90 pour le meilleur acteur. Hein. Il y a aussi eu le Ruban d'Argent en 91 pour le meilleur réalisateur étranger pour Luc Besson. Donc, petit rappel, Anne Parillaud, c'était à l'époque la femme de Luc Besson. Et on retrouve en plus dans le film Jean-Hugues Anglade, Jeanne Moreau, Jean Reno, entre autres. Donc, l'histoire, c'est une jeune toxicomane qui participe à un cambriolage d'une pharmacie. Cambriolage qui va se terminer en fusillade, dont elle est la seule rescapée. Elle est arrêtée, jugée pour assassinat et condamnée à la prison à perpète. Mais les services secrets français lui offrent le choix entre la mort ou le fait de travailler pour eux. Elle va donc subir un entraînement intensif et laborieux et va être enfin prête à réaliser ses premières missions sous le nom de code Joséphine. Alors, dans la fin des années 90, et en 97 précisément, voilà le cinquième élément, la sortie du film de science-fiction, le cinquième élément, va mettre en vedette aussi Bruce Willis et Mila Jovovich. En 94, lors de la 20e cérémonie des Césars, Luc Besson décide de boycotter la cérémonie suite à la remise du César du meilleur film étranger à Quatre mariages et un enterrement de Mike Nevel au détriment de La liste de Schindler de Steven Spielberg. Donc maintenant, on va écouter donc The Experience of Love, donc interprété par Eric Serra et qui est le qu'on trouve dans la dernière séance du film et du générique du film Golden Eye.
Experience of love. Take it now, feel the glow. Scald it close, don't let it go.
Donc, petite infidélité à Luc Besson, voilà, pour le tournage du film GoldenEye, donc, qui est le 17e opus de la saga des James Bond. Donc, film tourné par Martin Campbell et sorti en 1995. Donc, c'est le premier film où Pierce Brosnan tient le rôle du célèbre agent fictif du MI6. Voilà. À la différence des films précédents de la série, le scénario n'est pas une reprise des travaux du romancier Ian Fleming, bien que le titre soit inspiré de celui de son domaine à la Jamaïque. Le scénario original, conçu par Michael France, est écrit avec la collaboration postérieure de plusieurs autres auteurs. Le film raconte la lutte du MI6 contre le syndicat du crime, désirant utiliser le satellite GoldenEye contre Londres afin de causer une crise financière globale. Jouée pour la première fois par une femme, l'actrice Judi Dench assoit très vite son autorité. Les vrais quartiers généraux du MI6 ont été utilisés pour les extérieurs du bureau de M. Maintenant, vous allez avoir en direct la chronique Accord et Désaccord. Sophie et Paul.
C'est à moi que tu parles.
Vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ?
Bonjour à tous, chers auditeurs.
On est Paul et Sophie. Bienvenue dans Accord et Désaccord.
Alors, pour rebondir sur le film Subway dont a parlé Mireille, on va parler du cinéma et de la RATP.
Voilà, parce que les transports en commun sont des incontournables du cinéma. Chaque année, il y a plus de 70 tournages qui se déroulent sur les réseaux de la RATP.
D'ailleurs, la RATP a mis à disposition une station de cinéma, la station Fantôme de Porte des Lilas.
Voilà, donc tout le monde a déjà vu surtout cette station sur grand écran, mais personne ne l'a empruntée depuis 1939.
En effet, la station Porte des Lilas Cinéma est fermée au public, mais prisée des réalisateurs. Le métro est une source d'inspiration pour les réalisateurs. Il situe tout de suite l'action dans Paris et illustre la vie quotidienne des Parisiens.
Voilà, alors les réalisateurs ont aussi leur ligne préférée parce que c'est plus facile. Donc il y a la ligne 6, elle est aérienne avec vue sur la tour Eiffel. La ligne 10 parce qu'elle est assez longue et donc je pense que c'est plus pratique pour des tournages. Et la ligne 3 bis car très peu fréquentée.
Pour les tournages nécessitant beaucoup de personnel et de figurants, on propose aux réalisateurs de tourner de nuit. Cette station peut être louée pour environ 15 000 euros la journée. Elle a l'avantage d'être personnalisable selon les envies des scénaristes.
Voilà, donc c'est assez pratique. Donc les décors et surtout les panneaux comportant le nom des stations sont adoptés selon le film. Donc par exemple, dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, cette station, la station fantôme, est transformée en station abbesse. Dans Paris, je t'aime, dans la séquence des frères Cohen, elle est transformée en station des Tuileries.
Pour une époque formidable, elle sera transformée en station Gare de l'Est. Et même dans certains clips ont été tournés dans cette station, comme Le Lion est mort ce soir de Poho et That My People de NTM, pour la station Boisière.
Voilà, transformée en station Boisière. Voilà. Accord et désaccord, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt dans Soundtrack.
Ciao.
Oui, je comprends que vous soyez excités, mais moi je suis en vacances, j'aimerais bien être tranquille et je voudrais conserver l'anonymat.
Le vainqueur du grand concours des Jiminy Croquettes. Ce garçon carbure d'enfer. Alors à vos strings, il est figé, les filles, le con, c'est un véritable volcan, il est hot, hot, hot. Belle taille, belle carrure, belle coiffure, right on. Il a tous les atouts. Et en plus, il a des trucs à dire aux quelques 50 milliards de paires d'oreilles qui nous écoutent. Balance tout, merde.
Salut.
Incroyable! Tremblez les filles, tremblez, il va vous embrasser. En direct de 5 à 7, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur Campbell.
Ses fantasmes, ses rêves, ses pensées les plus intimes vous seront dévoilées.
Et d'après ce que j'en vois, son intimité n'est pas prête d'être imitée. Alors dis-moi quand. T'es nerveux dans le service?
Pas vraiment. Serrez les genoux, les petits choux, car Corbel est dans la place et il la surfrappe. Hier inconnu, il sera demain le prince du Flaston Paradise. L'hôtel des mille et une folies, des gâteries, des flatteries et des fontaines magiques ruisselantes de champagne, de femmes et de hoochie-coochie-coo. All night long, all night long, all night.
Lady, vous pouvez commencer à lécher votre timbre. Avec ce gars-là, vous allez avoir des choses à raconter à maman. Demain, de 5 à 7, je serai votre voix, votre langue, et nous partirons à la découverte du gonze le plus chaud de l'année. Un homme. Votre homme. Corbet.
Fin de la retransmission.
Ok, Ruby, demain à 17h.
Comment c'était?
Oh, 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 c'était un pur,
absolument délire.
J'ai trouvé ça quoi, Green, oui.
Green, comment?
Oh, super green, aussi green que ça peut être. Hyper green, la puissance des babosses. Green, 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 tu vois. Alors tu vois le green, green absolu. Green, un green plus green.
Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait, là? C'était naze! Il n'y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé animer une émission. Il faut que ça pop, pop, pop! Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de deux mots de vocabulaire. Faut que ce soit green, ok? Ok?
Je peux te parler une seconde? Oui. Il faut que je te parle. Je suis pas venu pour danser la rumba à la radio. Alors demain, pour ton 5 à 7, tu t'exciteras sans moi. Green?
J'ai plus green!
Thank you.
Lucia di Lammermoor, interprétée par la cantatrice Inva Mula, qui est née en juin 1963 à Tirana, en Albanie. Donc elle est originaire d'une famille d'artistes et commence sa carrière de chanteuse très jeune. Elle est choriste à l'Opéra de Paris avant d'entamer une carrière internationale de soliste. Elle chante à présent régulièrement les premiers rôles dans les plus grandes salles d'opéra du monde. Inva Mula est peut-être plus connue en Occident pour avoir prêté sa voix à la réalisation du film de Luc Besson, hein, le cinquième élément dans lequel on vient de l'entendre là. Le cinéaste voulait introduire en fait la voix de Maria Callas, mais l'enregistrement, qui datait de 1953, était de qualité trop moyenne pour être incorporé dans le film. C'est alors que Michel Glotz, qui est l'agent de Maria Callas, lui a présenté Inva Mula. Elle a été entre autres l'interprète vocale de l'aria « O questo cielo, il dolce sueno », qui est extrait de Lucia di Lammermoor, acte 3, scène 1, aussi connue comme la scène de la folie et de la diva dance chantée par la diva Plava Laguna, hein, la grande alien du film, là, vous voyez, voilà. Eric Serra a déclaré lors de son concert au Grand Rex que la voix représentait 80% de l'enregistrement et que le reste avait dû être retravaillé numériquement. Il a aussi déclaré qu'il n'imaginait pas quelqu'un capable de chanter plus de 60% de la chanson, hein, ce qui fait que là, elle a quand même fait réaliser un exploit. Alors le cinquième élément, de 1997, avec les acteurs Bruce Willis, Mila Jovovich, une autre femme de Luc Besson, Gary Goldman, Mae Wen dans le rôle de la diva, et qui était elle alors la femme de Luc Besson, hein, qu'il avait rencontrée lors d'une cérémonie des Césars en 1991. Donc l'histoire, en Égypte, 1914, un groupe d'extraterrestres nommé les Modoshawan débarque sur Terre afin de récupérer quatre pierres représentant les quatre éléments de la vie, afin de les soustraire à l'arrivée imminente de la Première Guerre mondiale. Trois siècles plus tard, Lilou, le cinquième élément, est une jeune femme dotée de facultés physiques et mentales supérieures à celles des humains. Et avec Corbin Dallas, Bruce Willis, ils vont tenter de récupérer les pierres et ainsi sauver l'humanité. Bruce Willis aura souvent sauvé l'humanité au cours de sa carrière d'acteur. Hein. Les décors et l'apparence des créatures du film sont dessinés par Moebius et Jean-Claude Mézières. Les costumes sont conçus par Jean-Paul Gaultier. Luc Besson va recevoir le César du meilleur réalisateur et c'est sur le tournage de ce film qu'il s'éprend de Mila Jovovich, qui va épouser à Las Vegas quelques mois plus tard. Et voilà pour le cinquième élément. Alors, il faut savoir qu'ensuite, Eric Serra, en 99, il va être recruté aussi par Disney pour assister Phil Collins dans la réalisation des versions françaises des chansons du film de Tarzan. Et donc, maintenant, on va écouter une autre musique, hein, de Eric Serra. donc The Holy Warrior, donc le thème du film Jeanne d'Arc, fait en 1999, donc avec comme acteurs Mila Jovovich, John Malkovich, Faye Dunaway, Vincent Cassel, Dustin Hoffman et Desmond Harrington, et puis bien, plein d'autres bien sûr. Hein. Donc, vous voulez que je vous raconte l'histoire de Jeanne d'Arc, hein? C'est une enfant pieuse, dévote, aimée et heureuse dans le petit village médiéval et paysan de Don Rémy, du duché de Lorraine, jusqu'à ce qu'un détachement de soldats anglais pille, massacre et brûle le village et les villageois. Voilà. La sœur adorée de Jeanne d'Arc la cache dans un placard et lui fait un rempart de son corps. Jeanne est alors le témoin horrifié, tétanisé, impuissant et traumatisé à vie du massacre de cette sœur qu'elle adore, éventrée à coups d'épée puis violée contre la porte du placard par un soldat anglais aviné sous le regard de ses complices. Un dégoût viscéral des Anglais s'installe alors dans son âme, tout la convainc que Dieu la charge de chasser les Anglais hors de France et de faire sacrer le dauphin Charles VII, roi de France, à la cathédrale de Reims. Sa détermination communicative suffit à galvaniser les armées et les seigneurs vassaux du roi de France et à bouter les Anglais hors de France. Commence alors le procès. Jeanne d'Arc est seule et doute sur certains épisodes de sa vie. Sont-ils des coïncidences hasardeuses qu'elle a confondues avec des signes de Dieu ? Les Anglais la brûlent vive le 30 mai 1431 en la place publique du vieux marché de Rouen. Ouais, c'est pas loin de chez nous ça. Voilà.
Le doublage est le remplacement de la langue originale de tournage d'une œuvre audiovisuelle par une langue parlée par la population des zones géographiques où doit être diffusée cette œuvre. Elle sert aussi à remplacer en partie ou en totalité la voix d'un acteur par celle d'un autre dans la langue de tournage pour des raisons artistiques ou autres. Le terme doublage peut être également utilisé par extension pour désigner la post-synchronisation ainsi que les prestations vocales enregistrées en amont du tournage. La technique du doublage est apparue dès l'origine du cinéma parlant, les producteurs se trouvant confrontés à la barrière de la langue lors de l'exploitation de leurs films à l'étranger. Confronté à ce problème sur le tournage de Chantage en 1929, Alfred Hitchcock imagine une solution audacieuse pour faire de son film le premier long-métrage parlant britannique. Son actrice principale, Annie Ombra, étant en effet dotée d'un fort accent slave, il demande à une actrice anglophone, Joan Barry, de réciter depuis la cabine son les dialogues qu'Ombra mime devant la caméra. Adolph Green et Betty Comben feront de ce cas de figure l'un des principaux éléments scénaristiques du film Chantons sous la pluie en 1952, dans lequel, lors du passage du cinéma muet au parlant, les producteurs imaginent de faire doubler la vedette du muet Lina Lamont, dont la voix est très vulgaire et en décalage avec son image à l'écran, par une jeune débutante. Plus récemment, dans Star Wars, David Prowse, qui incarne Dark Vador, est doublé par James Earl Jones. Dans les films musicaux, certains acteurs sont doublés par des chanteurs, même lorsqu'ils ont une formation musicale. Ainsi, Marnie Dixon doubla pour le chant Deborah Kerr dans Le Roi et moi, doubla Natalie Wood dans West Side Story et Audrey Hepburn dans My Fair Lady.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous m'avez fait à l'estomac? Qu'est-ce qui se passe?
On a simplement glissé un paquet dans ton ventre. Tu vas transporter quelque chose qui nous est très précieux.
Non.
Et toi, tu parles anglais?
Oui.
Conduis-moi à l'hôpital.
À l'hôpital?
On a mis une poche d'1 kilo dans mon ventre, enlevez-la tout de suite, ça fuit.
On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%. Ça commencerait à devenir intéressant. Oui.
Professeur Norman, je m'appelle Lucie. J'ai lu vos travaux sur le cerveau humain. C'est un peu rudimentaire, mais vous êtes sur la bonne voie.
Je vous remercie.
J'utilise 28% de mes capacités cérébrales. J'arrive à ressentir chaque chose vivante.
Depuis quand tu sais écrire le chinois ?
Depuis une heure.
Qu'est-ce qui se passera quand elle sera à 100% ?
Je n'en ai aucune idée. Toute cette connaissance, vous aurez la capacité de comprendre au-delà de notre univers. Je ne suis pas sûr que l'humanité soit prête pour ça.
C'est comme si tout ce qu'il y a d'humain en moi disparaissait.
Alors, c'était la bande-annonce de Lucie, film d'action et de science-fiction français. Donc, toujours écrit et réalisé par Luc Besson, qui est sorti en 2014, avec comme acteurs principaux Scarlett Johansson et Morgan Freeman. Donc, pour la musique, Luc Besson a également fait appel à Damon Albarn pour le titre Sister Rust. Et le compositeur anglais raconte « Tout est parti d'un coup de fil que m'a passé Luc Besson, un appel en visioconférence. Au début, je ne comprenais pas trop ce que je voyais à l'écran et pour être honnête avec vous, je m'étais couché très tard. Bref, je suis venu à la Cité du cinéma, j'ai vu des passages de Lucie et c'était très séduisant. En plus, j'aime beaucoup les films de Luc Besson, ça aide. Et voilà, c'était parti. Ça s'est fait de manière très simple. Je ne peux pas bosser avec des gens que j'apprécie. J'ai besoin de me sentir proche d'eux pour m'engager à fond et c'était le cas ici. Alors l'histoire du film, c'est partant du postulat que l'être humain n'utilise que 10% de ses capacités, des capacités de son cerveau, le film décrit ce qui arrive à une jeune étudiante de 25 ans, Lucie, dès lors qu'elle a par accident absorbé une drogue expérimentale qui décuple ses capacités cérébrales. Il faut savoir que Lucie devient le plus gros succès du cinéma français à l'étranger avec 53,5 millions d'entrées devant Taken 2, et Le Cinquième Élément, également réalisé par Luc Besson. Donc là, on entend Flicking Through Time, donc des musiques de Lucie. Donc, entre 2009 et 2014, il fait de nouveau équipe avec Luc Besson pour mettre en musique 4 films, donc Arthur et la vengeance de Maltazar, Les aventures d'Adèle Blanc-Sec, Arthur III, La guerre des deux mondes et The Lady. Voilà.
Écoutez la musique.
Tu aimes Beethoven ?
Je peux pas vraiment dire.
De l'argent en jeu.
On avait dit midi. Et il est déjà midi.
Toi, tu dois aimer Mozart, j'en suis sûr.
Moi aussi, j'adore. C'est le meilleur.
J'adore Mozart.
Waouh.
Je suis comme. Pourquoi vous les laissez pas tranquilles?
Il a dit, restez pas dans le couloir.
Ni femme, ni enfant.
Je me suis décidée à apprendre un métier. Je vais être nettoyeuse.
Toi, tu viens avec nous.
Raconte-moi ce qui était vraiment arrivé.
Ma famille a été tuée pour une histoire de drogue. Je me suis enfuie avec un gars génial. Un vrai tueur. Le meilleur de toute la ville. Si vous m'aidez pas, je serai morte d'ici ce soir.
La mort est capricieuse aujourd'hui.
Je
Léon, sorti en 1994 avec Jean Reno et Gary Oldman. C'est le sixième long métrage réalisé par Besson. Jean Reno y interprète un personnage nommé Léon, similaire à celui de Victor dans Nikita, le précédent film de Luc Besson. Voilà. Luc Besson considère que Léon est un cousin américain de Victor, en plus humain. Ce film marque également la première apparition à l'écran de Nathalie Portman, qui est alors âgée de 12 ans. Léon retrace la vie d'un tueur à gages du même nom, vivant en solitaire à New York. Ce dernier héberge une voisine de palier, fillette de 12 ans, dont la famille a été assassinée, car le père avait volé de la cocaïne. Pour venger son petit frère, Mathilda demande à Léon de lui apprendre son métier. Conduite par John Altman, la musique a été enregistrée à l'Explorer à Paris et au Angel Studio de Londres. Columbia Records édite la bande originale sous le titre français avec un titre supplémentaire non présent dans le film qui s'appelle Hey Little Angel, qui est composé et interprété par Eric Serra, hein, avec des paroles de Luc Besson et de Manu Katché. Donc voilà, alors on va terminer cette émission sur Eric Serra et Luc Besson. La prochaine émission, elle sera sur Francis Lai et Claude Lelouch, un autre duo du cinéma français. Alors je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette émission extraordinaire et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.